Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Nous prenons notre première lecture dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1er. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, etc. L'apôtre Paul écrit à Timothée et lui donne des avertissements ou plutôt des informations sur des signes qui vont caractériser la fin des temps. Nous savons que dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus lui-même va annoncer la fin des temps et il va annoncer des signes liés à la vie sur terre, liés aux manifestations de la nature, tremblements de terre. On va nous parler de famine et de guerre. Donc tous ces signes-là qui vont, précéder la fin des temps. Et là, l'apôtre Paul met l'accent sur le comportement des gens. Il dit, voilà pourquoi les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles parce que les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Donc c'est l'égoïsme de l'être humain qui va être aussi la cause des temps difficiles. Et si aujourd'hui nous pouvons parler de guerre, c'est bien parce qu'il y a de l'égoïsme. Ceux qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont les armes, ne se soucient pas des dégâts qu'ils vont causer. Parce que la réalité, c'est qu'ils doivent gagner et gagner davantage. L'égoïsme est un fléau et un problème pour l'humanité parce qu'il ne construit pas, mais il détruit. Et cet égoïsme-là, en réalité, habite dans tout être humain parce que nous avons le péché en nous. Gloire au Seigneur par le sacrifice de Jésus qui nous donne le droit d'être habité par le Saint-Esprit lorsque nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, nous donne la possibilité de vivre au-dessus de l'égoïsme et d'entrer dans la loi du Seigneur qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais malheureusement, même si le Seigneur nous a fait don de son Esprit Saint, il n'a pas fait de nous des robots ou des machines qu'on télécommande. Il nous a laissés libres dans notre entendement. Il nous a laissés libres dans nos choix. Et c'est à cause de cette liberté que même cet égoïsme que nous voyons dans le monde, malheureusement, nous le retrouvons aussi dans l'Église. Parce que nous ne prenons pas la décision et le choix ferme de marcher selon ce qui est écrit, mais ayant des désirs personnels, ayant des ambitions personnelles, ayant des volontés personnelles, on prend cette liberté pour faire des choix sans vraiment tenir compte des conséquences sur les autres. On vit quelquefois comme si nous étions seuls au monde. On ne fait pas attention que nous sommes en communauté, on ne fait pas attention que nous ne sommes pas seuls sur la terre, mais on fait des choix et des décisions en fonction de ce que nous voulons. Je dis souvent qu'il y a des personnes qui vont voter, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais beaucoup de gens qui votent, ils ne votent pas parce qu'ils cherchent l'intérêt de tous. Ils votent en fonction du programme que le candidat propose, qui va tenir compte de ses propres intérêts à lui. Alors même si ça va nuire aux plus petits, même si ça va nuire aux plus pauvres, son problème c'est lui. Il défend sa retraite, alors je vote pour lui. Il descend l'augmentation de mon salaire, alors je vote pour lui. Sans tenir compte de tout ce qu'il y a à côté qui va détruire les autres. Parce que l'homme est égoïste. Il pense d'abord à lui. Qu'est-ce que lui deviendra? Il ne tient pas compte de l'intérêt général. Et quand on ne tient pas compte de l'intérêt des autres, forcément, c'est que le regard est centré envers nous-mêmes. Le dictionnaire nous dit que l'égoïsme vient du latin « ego », qui veut dire « moi ». Donc, quand on parle d'égoïsme, on parle d'abord de soi. Ça veut dire que c'est une tendance qui porte un individu à se préoccuper exclusivement de son propre plaisir et de son propre intérêt sans se soucier de ceux des autres. Donc le problème, c'est moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais être gagnant dans l'affaire? Qu'est-ce que ça va me coûter? Combien ça va me coûter? L'interrogation se tourne d'abord vers moi-même. Et ce que pensent les autres, à la limite, ce n'est pas mon problème. Et l'égoïsme va se constater, bien aimé, même dans des choses, je dirais anodines, des choses que nous considérons comme petites, mais un jour qui vont nous emmener à manifester un égoïsme très fort. Il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils vont au supermarché, ils font leurs courses, ils oublient qu'ils sont dans un supermarché et que c'est un lieu public. Alors ils se promènent, ils laissent son caddie au milieu, les autres ne peuvent pas passer, il faut qu'on pousse le caddie, parce que dans sa conception, il vient faire ses courses pour lui. Donc il ne fait plus attention, mais qu'il n'est pas seul dans le magasin. Alors tranquillement, il laisse ses affaires traîner et ça dérange tous les autres. Ce sont des choses qu'on peut dire, oui, mais c'est lié, peut-être qu'il était étourdi, peut-être qu'il était distrait. Mais tu n'es pas distrait lorsque tu es dans... Ton enfant joue dans l'eau et que tu es en face de lui. Tu es concentré parce que tu te dis que là, je ne suis pas seul, j'ai une responsabilité. Mais lorsque tu es dans le supermarché, tu dois avoir cette même attention, que tu n'es pas seul et que tu as la responsabilité de mettre aussi les autres à l'aise. Que ta présence dans le magasin ne dérange pas les autres. Il y a un magasin, lorsqu'il y a les invendus de la veille, notamment tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est pain, ainsi de suite, ou quelquefois qui fait des promotions. Alors le lendemain, il présente cela à part, vraiment à moindre coût. Au point que certains viennent le matin uniquement pour acheter, par exemple, tout un carton de croissants et de pain pour 1 € seulement, de la veille. Alors, ça a tellement créé des disputes parce que la personne qui vient veut tout prendre. Que aujourd'hui, lorsque vous allez et que tu veux prendre 3, on te dit non, 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 c'est 1 par personne. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que les gens sont égoïstes et que là où il peut profiter, il va profiter sans se soucier de l'autre. Il va vouloir tout prendre. Et cette façon d'agir, l'apôtre Paul dit clairement, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » C'est à cause de l'égoïsme que nous nous mettons dans les difficultés et que le pays n'est plus, je dirais, vivable. Il y a ceux qui sont égoïstes qui pensent pour eux-mêmes, c'est-à-dire personnellement. Il y a d'autres aussi, toujours dans l'égoïsme, qui pensent d'abord ma patrie, mon pays, ma nationalité. Il y a d'autres qui pensent en termes de tribu ou bien d'ethnie. Même s'il est dans un pays, son souci à lui, c'est d'abord son ethnie, c'est d'abord sa tribu d'où il vient. D'autres, c'est d'abord leur région. On sait qu'en France, les Corses se considèrent plus Corses que Français. Les Marseillais se considèrent plus Marseillais que Français. Donc dans leur intérêt, c'est d'abord Marseille. La France, c'est après, c'est comme si c'était un autre pays. Pareil pour la Corse. Et en Afrique, n'en parlons pas. Lorsque celui qui est chef d'une tribu et qui arrive au gouvernement, il va nommer que des gens de sa tribu parce que les autres ne comptent pas. Et c'est cet égoïsme-là qui détruit les nations, qui détruit l'humain, qui ne construit pas et qui fait du mal à son prochain. Les gens se soucient pour eux-mêmes. Je connaissais un professeur de mon professeur de biologie au collège, et je l'ai rencontré quelques années plus tard dans un magasin, il faisait ses courses, et puis il choisissait des chaussures, et il regardait méticuleusement toutes les étiquettes. Et il me dit, mais tu sais pourquoi je fais ça? Je dis non. Il me dit, parce que je ne veux acheter que du produit français. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne tenait compte de la France, pour son cas à lui. Il dit, parce que je suis contre le fait que des enfants souffrent pour fabriquer des choses et que nous, on les achète et on encourage cela. Il avait le souci pour les autres. Donc, il voulait acheter ce qui était fabriqué en France pour boycotter le travail des enfants, notamment dans les pays pauvres. Mais combien de Français se soucient de ça? Combien d'entre nous, nous nous soucions de ça? Je ne veux pas que nous culpabilisons. Beaucoup d'entre nous, moi le premier, je ne regarde pas spécialement les étiquettes. Mais est-ce que nous prenons même la peine de prier pour l'injustice qu'il y a dans ce monde? Est-ce que nous avons le souci lorsque nous achetons un vêtement? Combien d'entre nous se soucient de savoir d'où vient le carburant qu'il met dans sa voiture? Combien de Français se soucient de savoir qu'il y a des pays entiers qui sont pillés de leur pétrole pour que vous ayez le carburant? Combien de Français se soucient de ça? L'égoïsme nous empêche de penser aux autres. Je ne dis pas qu'on ne va plus mettre de carburant dans nos voitures. Je dis qu'on doit être conscient de ça et être à l'écoute du Seigneur. Et si Dieu te demande toi de boycotter, fais-le. Comme ce professeur de biologie qui n'achetait plus tout ce qui était fabriqué dans les pays pauvres. Il en est arrivé jusque-là. Mais cet homme n'était pas chrétien. Combien de Français se soucient de ça? De savoir que le café qu'il boit, que le cacao qu'il mange, ça vient des peuples qui souffrent. On ne s'en soucie pas. Parce que nous sommes devenus égoïstes et que l'égoïsme ne fait que grandir dans nos vies. Et la moralité même d'avoir le souci de son prochain n'est plus. Parce que ce qui importe, c'est notre problème à nous-mêmes. Ce qui importe, c'est notre santé, c'est notre état. Ce qui se passe chez les autres, ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur veut qu'on revienne à ce qui est essentiel. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, il était convaincu de son appel. Il était convaincu du ministère que le Seigneur lui avait confié. Et il le disait avec assurance, avec fermeté. Mais malgré cela, quand il a commencé le ministère, il a tenu à aller à Jérusalem pour rencontrer ceux qui avaient reçu l'appel de Jésus avant lui. Il a dit, je me suis rendu à Jérusalem pour voir ceux qui étaient les plus considérés parmi les apôtres. Il voulait être sûr, se rassurer que ce qu'il prêchait, que ce qu'il enseignait était dans la ligne de conduite de l'évangile et il est parti voir ceux qui avaient reçu avant lui. Mais voilà ce qu'il va dire. Que les apôtres étaient d'accord avec ce qu'ils prêchaient. Ils ont reconnu et attesté que ce qu'ils prêchaient était véritablement l'évangile de Jésus. Mais il dit, ils m'ont demandé une seule chose. De me souvenir des pauvres. Ils m'ont demandé une seule chose. D'avoir soin des pauvres. Ne sois pas égoïste. Il y a des gens qui souffrent. Tu vas prêcher l'évangile. Mais n'oublie pas les pauvres. N'oublie pas ceux qui sont démunis. Lorsque nous lisons le livre des Proverbes, il y a beaucoup de versets qui nous invitent à nous souvenir des pauvres, à nous souvenir de ceux qui sont démunis, à nous souvenir de ceux qui sont sans voix, à prendre la défense de ceux qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Mais lorsque l'égoïsme est là, nous allons penser à qui? Nous allons penser à quoi? Si ce n'est à nos propres intérêts, à nos propres affaires. Et je disais tout à l'heure que cet égoïsme-là entre même dans l'Église, à tel point qu'il y a des chrétiens qui nuisent dans leur façon de vivre à la logique de Actes 2:42. Ceux qui avaient reçu l'Évangile, se sont réunis avec les autres. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. Ils persévéraient ensemble. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas tenir compte de la famille spirituelle. Pour lui, c'est lui-même son enseignant. Il est aussi son propre frère, sa propre sœur. Donc dès que le culte finit, il prend ses affaires et il s'en va. Parce que c'est d'abord lui. Tenir compte de la présence des autres, ça ne lui dit rien. Ça, ce sont des signes de l'égoïsme. Il y a les réunions. Il peut y aller. Mais il décide de ne pas y aller parce que c'est sa vie. Et que quelque part, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est son problème à lui. Que je sois là ou pas, ça peu importe. C'est moi qui décide. Mais en ayant cette logique-là, nous sortons tout simplement des Écritures. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ce n'est même pas chaque jour que nous sommes au temple, nous. Ce n'est même pas chaque jour. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Bien-aimés, pour être assidus au temple et aimer être dans la présence des autres, il faut avoir l'amour. L'égoïsme ne peut pas fonctionner de cette manière-là. L'égoïsme ne peut pas fonctionner avec la logique de communauté, avec la logique de famille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est dans cet égoïsme-là que nous sommes en train d'entrer petit à petit, où chacun se soucie de ses propres projets, de ses propres objectifs. Et vous allez voir certaines églises locales qui, lorsque vous regardez, vous allez compter le nombre de propriétaires de voitures, nombre de propriétaires de maisons. Et lorsque l'église essaye ensemble de faire un projet ensemble, il n'y arrive même pas. Il n'y arrive même pas. Il n'y avait plus de pauvres dans la première église. Il n'y avait pas de pauvres. Parce qu'ils mettaient leurs biens en commun et personne ne disait que ça m'appartient. Ils considéraient que tout était au Seigneur et qu'ils n'étaient que des gestionnaires de Dieu. Alors ils déposaient tout aux pieds des apôtres qui en faisaient la distribution selon le besoin de chacun. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de pauvres. Mais quand nous voyons que l'Église a du mal à avancer dans certains projets, mais si ce n'est pas à cause de l'égoïsme, c'est à cause de quoi alors? Ce n'est pas parce que tu as partagé ton pain ce matin que ça veut dire que tu as l'amour. Ce n'est pas un acte uniquement qui justifie si nous sommes dans l'égoïsme ou pas. C'est notre façon d'abord de penser. Notre façon de voir et de lire l'évangile qui va influencer notre façon de vivre. Il y a des gens du monde qui donnent. Les gens qui travaillent au Secours Populaire, au Secours Catholique, ce n'est pas des chrétiens ces gens-là. Les gens qui travaillent au Resto du Cœur, ce ne sont pas des chrétiens ces gens-là. Il ne suffit pas de dire « j'ai donné » pour dire « je ne suis pas égoïste ». Quelle est notre façon de voir la vie chrétienne? Est-ce que nous avons compris qu'en devenant chrétien, on ne vit plus pour nous, mais on vit uniquement pour le Seigneur? Et ce Seigneur-là s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire que puisque nous sommes appelés à l'imiter, nous sommes aussi appelés à vivre comme lui. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Si nous voulons aller à l'encontre de l'égoïsme, alors nous devons marcher par l'amour. 1 Samuel chapitre 13. Nous allons prendre 2-3 exemples dans la Bible qui nous montrent l'égoïsme et surtout les conséquences de l'égoïsme sur les autres. 1 Samuel chapitre 13. Il y a beaucoup d'exemples. On va essayer d'être pratique. 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Il, c'est le roi Saül, à qui on avait demandé d'attendre la venue du prophète Samuel pour faire le sacrifice, parce que c'est Samuel qui avait ce rôle-là de sacrificateur. Je relis. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Saül désobéit à l'ordre de Dieu. Il accomplit un sacrifice pour lequel il n'avait pas reçu l'onction. C'était réservé à Samuel. Et il dit qu'il a vu le peuple, son armée, commencer à l'abandonner. Alors il s'est vu seul, livré entre les mains des adversaires, et il s'est dit, je vais perdre la vie. Mais au-delà de la vie qu'il allait perdre, il y avait aussi ses intérêts en tant que roi. Je ne vais pas perdre tout comme ça. Alors pour conserver ce qui lui semblait cher, il a préféré désobéir à Dieu. Le Seigneur dit que celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Saül n'était pas prêt à perdre sa vie et tous les avantages qui allaient avec. Il a préféré désobéir. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque le sort de l'Éternel s'abattait sur un homme, ça touchait toute sa famille. C'était une malédiction pour toute sa famille. Dans l'égoïsme de Saül, qui voulait à tout prix conserver sa position, a entraîné la malédiction dans toute sa maison. Parce que lui voulait conserver ses propres intérêts. Bien-aimés, comprenons que derrière les choix que nous pouvons faire, en disant « ça me regarde moi », il y aura des conséquences derrière. La Bible nous dit que le Seigneur punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Jusqu'à la quatrième génération. L'acte d'égoïsme que tu peux faire, les choix égoïstes que tu peux faire, peuvent avoir des conséquences sur ceux qui viendront après toi. Tu penses que tu es seul, selon la loi des hommes, mais selon la loi spirituelle, selon la loi de vie, selon Dieu. Celui qui ne marche pas selon les voies du Seigneur attire une condamnation pour ses propres descendants. Mais lorsqu'on est dans l'euphorie, dans la joie de pouvoir se faire plaisir soi-même, de pouvoir tirer avantage de quelque chose qui va nous élever ou nous glorifier, on oublie tout ce qu'il y a autour. On oublie tout ce qu'il y a autour. Il y a des gens pour le pouvoir qui sont prêts à entrer dans la magie. Et quand ils entrent dans la magie et que le malheur entre dans la maison et qu'ils voient ses enfants mourir, ils ne comprennent pas. Mais l'égoïsme que tu avais de vouloir être élevé, qui t'a poussé à entrer dans des mouvements qui luttent directement contre Dieu, qui font des actions directement contre Dieu. Et tu pensais t'en sortir toi-même, seul. Et voilà les malheurs qui sont en train de s'abattre dans la maison. Parce que le choix égoïste d'être quelqu'un, d'être élevé, emmène la destruction de tes proches, emmène la destruction de ceux que tu dis aimer. Saül a préféré désobéir à l'ordre de Dieu pour sauver sa vie, plutôt que d'être prêt à se sacrifier pour ce Dieu-là, comme Samuel lui dira plus tard. Tu n'étais rien du tout. Tu n'étais rien du tout, Saül. Tu n'étais rien. C'est le Seigneur qui t'a emmené jusque-là et qui a fait de toi un roi. Et aujourd'hui, tu désobéis comme ça à son ordre. Tu n'étais rien. Vous savez, il y a des choses qui sont étonnantes dans la vie. Il y a des gens qui sont élevés dans la société. Parce qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils ont fourni des diplômes. Parce qu'ils ont fait leurs preuves. Et voilà qu'à un moment donné, alors qu'ils sont arrivés à un niveau, sans le savoir pourquoi, ils entrent maintenant dans la magie. Mais Dieu t'a amené jusque-là. Tu n'as pas touché à ces choses-là. Pourquoi maintenant tu y touches? Est-ce que le Dieu qui t'a emmené jusque-là n'est pas capable de te conserver là? Tu arrives à un niveau et tu commences maintenant à entrer dans le compromis, à faire des fausses déclarations pour gagner 100 euros de plus. Mais le travail que tu as eu, n'est-ce pas le Seigneur qui t'a béni? Maintenant que tu apprends qu'on menace parce qu'il y aura des licenciements, tu commences à changer de personnalité, à mettre des coups bas à tes collègues de travail pour que le patron ait une bonne image de toi. Parce que l'égoïsme est entré et agit dans nos cœurs. Alors c'est sauf qui peut, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce n'est pas la logique de Dieu. L'apôtre nous dit que les temps seront difficiles à cause de l'égoïsme. Nous nous rendons la vie difficile à cause de l'égoïsme. 1 Chroniques chapitre 21. 1 Chronique 21. À partir du verset 1er. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur ? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi pécher Israël ?» Voilà la réponse que Joab donne au roi David qui désire savoir à combien s'élève le peuple d'Israël. Il s'oppose quelque part à cet ordre du roi. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, le dénombrement était réservé à Dieu. On ne faisait le dénombrement qu'une seule fois, que seulement lorsque Dieu le demandait. Le peuple appartenait au Seigneur. Et David va avoir le désir, la démangeaison, de savoir en quelque sorte, il est à la tête de combien d'hommes ? À combien s'élève le nombre de personnes sur lesquelles lui domine ? Verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » Et David va finir par choisir la peste. Un grand nombre parmi le peuple va mourir. Un grand nombre d'innocents, peut-être qu'ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, qu'ils n'étaient peut-être pas au courant que David avait fait le dénombrement contre la vie de l'Éternel. Mais David a eu un désir personnel. La Bible nous dit que Satan l'excita, mais le diable ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'humain. Le diable ne fait que tenter. Ça veut dire que dans cette tentation, il y avait déjà des mauvais désirs dans le cœur de David. Et lorsqu'on l'a tenté, il est tout simplement tombé dans cette tentation. Il avait des désirs de voir, lui le roi d'Israël, combien de personnes étaient sous sa domination. Combien de personnes étaient sous lui. Il avait ce désir personnel égoïste parce que ça n'allait rien changer à la vie du peuple. Ça n'allait rien changer à Israël de savoir combien ils étaient. Donc ce n'était qu'un plaisir personnel. Le désir de savoir sans qu'il y ait, je dirais, une conséquence sur la vie du peuple. Mais il a désobéi à l'ordre de Dieu uniquement pour se satisfaire lui. Et voilà que le Seigneur, en colère, a frappé le peuple. Parce qu'un seul homme a eu des désirs personnels qui n'engageaient que lui. Les actes d'égoïsme que nous posons, bien-aimés, peuvent avoir des conséquences sur les autres. C'est un frein pour l'Église. C'est un frein pour nos propres vies. Vouloir se satisfaire dans des voies dans lesquelles le Seigneur est opposé peut avoir des conséquences, non seulement sur nous-mêmes, comme ça a été le cas pour Saül que nous avons lu, parce qu'à partir de là, on lui a dit, Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Non seulement tu as perdu ta royauté à partir d'aujourd'hui, mais Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Et il y a eu des conséquences sur toute sa maison. Et là, David, qui a eu la démangeaison d'entendre combien étaient les hommes en Israël, finalement a attiré le malheur sur tout le pays, sur toute la nation, uniquement par son égoïsme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Voilà une institution qui est encore plus ancienne que l'Église même. Dès le commencement, lorsque Dieu crée toute chose, il institue la famille. Il crée Adam, il crée Ève. Et il dit, depuis la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le Seigneur va instituer la famille et il donne un mode de vie. Il donne un mode d'emploi pour la famille. Et dans ce passage-là, l'apôtre Paul rappelle les principes fondamentaux du mariage, de la vie de famille. Le rôle que chaque partie doit jouer afin que Dieu soit honoré et que la famille soit vécue selon le plan et le projet du Seigneur. Alors, il s'adresse d'abord aux femmes. Que la femme soit soumise à son mari comme elle l'est au Seigneur. Nous le répétons, nous le disons encore, que la soumission dont il est question n'est pas l'esclavage. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'être esclave du mari, mais d'être soumise, de respecter le mari comme son autorité. Et il dit « comme elle l'est au Seigneur ». C'est une façon de dire que le respect que tu accordes à ton Seigneur, c'est le même respect que tu dois accorder à ton mari. C'est lui qui doit avoir le dernier mot, comme le Seigneur a le dernier mot dans ta vie. Maintenant, il y a des réalités que nous vivons aujourd'hui qui donnent une image de la famille, de la famille chrétienne, où on ne fait plus la différence entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Il y a des femmes, on ne sait plus trop est-ce que c'est une femme ou bien est-ce que c'est un homme. Il y a une confusion, parce que tout est mélangé. Elle est appelée à être femme, mais elle veut à tout prix vivre comme un homme. Mais lorsque on vit de cette manière-là, c'est pour le plaisir de qui ? Puisque le Seigneur te donne un ordre contraire. Donc lorsque tu vis comme un homme, que tu veux prendre la place de l'homme, finalement tu le fais pour toi-même. Et cet égoïsme-là détruit la famille. Tu penses résister à l'homme qui est en face de toi, en te disant non, 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 il ne me respecte pas, il ne m'aime pas, je vais adopter cette attitude-là. Mais le Seigneur ne te demande pas d'être soumise à condition que le mari t'aime. Ce n'est pas conditionné. C'est pourquoi il dit que tu dois être comme au Seigneur. Est-ce que tu obéis au Seigneur à condition qu'il te bénisse d'abord? Quelle est la femme qui dit, Seigneur, je vais t'obéir quand tu m'auras d'abord exaucé? La femme qui a compris l'évangile, qui aime le Seigneur, se soumet avant même que le Seigneur ait répondu à sa prière. Parce que c'est normal. Mais il dit qu'il doit en être ainsi avec le mari. Mais par l'égoïsme de femme, voilà combien de familles sont détruites. Et voilà combien les jeunes sœurs qui arrivent derrière ont le témoignage, voilà, de ce que doit être une femme dans le mariage. Et elles vont reproduire ces choses-là. Ta responsabilité, en te disant, ça n'engage que toi. Sache qu'il y a d'autres enfants qui regardent, qui observent. Et qui voient tes propres enfants dans la maison. Vois comment tu ne respectes pas leur père. Vois comment tu ne te soumets pas à ton mari. Soit un jour ils grandiront. Et elles s'opposeront, tes enfants s'opposeront aussi à toi. Comme tu t'es opposé à ton mari. Et toutes ces conséquences-là, tu les subiras. Mais en les subissant, tu emmènes aussi tes enfants, tes filles à grandir en ayant une image de ce que doit être la femme qui va les faire souffrir aussi elles-mêmes dans leur mariage plus tard. Donc ton égoïsme à toi de vouloir t'affirmer et de vouloir t'opposer à ton mari va détruire tous ceux qui viennent après toi. Soumise au Seigneur, soumise à ton mari comme tu l'es au Seigneur. Le Seigneur a donné ses commandements afin que la famille vive véritablement selon son plan à lui. Que ton mari soit païen ou pas. La Bible n'a pas dit soumets-toi à ton mari à condition qu'il soit chrétien. Non. Soumets-toi à ton mari. Si tu t'es converti pendant que vous étiez déjà marié, Dieu te soutienne, mais reste une femme chrétienne. Mais si tu étais déjà converti et que tu as fait le mauvais choix, assume ton mauvais choix. Tu as dit, non, Dieu m'a dit, il va changer dans le mariage. Dieu m'a dit qu'il se convertira après. Ça fait 15 ans que vous êtes marié, il n'est toujours pas converti. Assume ton choix. Sois une femme selon le Seigneur. Parce que ton égoïsme va détruire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Jésus-Christ est mort pour l'Église. Et il dit que c'est de cette manière-là que l'homme doit vivre. Être prêt à se sacrifier pour sa famille. Être prêt à se sacrifier pour sa femme. Il y a des hommes dans leur maison, ils vivent comme s'ils étaient célibataires. Ils vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ils vivent comme s'ils n'avaient pas d'enfant. La charge de l'enfant doit reposer sur la femme. Lui, son problème, c'est d'être le lion, c'est d'être, comment dire, le prédicateur, c'est d'être l'apôtre, c'est d'être l'enseignant, mais le reste, ça ne l'intéresse pas. Il ne tient pas compte de sa femme. Et il se croit très spirituel. Mais la Bible dit, aime ta femme comme Christ est sacrifié. Donc, en refusant d'aimer ta femme comme le Seigneur, mais tu contredis la parole. Et tu penses être très spirituel. Tu penses connaître. Mais qu'est-ce qui témoigne que nous connaissons ou pas? Tu prends ta voiture, tu dis, moi je sais conduire, je connais le code de la route. Tu brûles le feu. Tu passes le stop. Est-ce qu'on va dire que tu connais le code de la route? On va dire, tu ne connais pas. Les actes que tu poses témoignent si tu connais ou tu ne connais pas. J'ai appris ma leçon, j'ai très bien travaillé. Résultat, 1 sur 10. Tu ne connais pas la leçon. Ah, mais pourtant, oui, mais le résultat montre que tu ne connais pas. Alors, tu peux dire que tu pries tous les jours. Matin, midi, soir. Tu médites la parole. Matin, midi, soir. Mais tu n'aimes pas ta femme, tu n'aides pas ta femme. Donc, tu ne connais rien. Ça veut dire que tout ce que tu médites, jusqu'aujourd'hui, matin, midi, soir, tu ne l'as même pas compris. Pourquoi? Parce que dans ton égoïsme, il n'y a que toi qui comptes. Tu ne vis pas l'évangile pour l'autre. Tu n'as pas compris que la connaissance que Dieu te donne, c'est pour aider les autres. La connaissance que Dieu te donne, c'est pour soutenir les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les forts supportent les faibles. Mais nous sommes forts comment? Nous sommes forts en Jésus, par son Esprit Saint et par la parole qu'il nous donne, par la connaissance qu'il nous accorde. C'est de cette manière que nous pouvons être forts. Dans quel but? Pour soutenir les faibles. Et avec cet égoïsme-là, comment la famille va bien vivre? Comment la famille va bien se comporter? Oui, mais ma femme me parle mal publiquement, elle me répond mal publiquement. Mais ce n'est pas au conditionnel. On n'a pas dit aime ta femme comme à condition qu'elle te respecte. Ce n'est pas dit ça dans la Bible. On dit comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Il s'est sacrifié, le Seigneur, avant même que tu sois marié. Ça veut dire que le modèle que tu as du sacrifice est déjà passé. Pourquoi tu attends que ta femme fasse un modèle de sacrifice ou bien une façon de vivre pour appliquer? Non, on applique en fonction de ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Mais il y a un tel égoïsme où c'est chacun pour soi. Même dans les familles, les couples se divisent, se battent pour l'argent. C'est mon compte, c'est moi qui travaille. Chacun pour soi, le mari ne sait même pas certain il y a combien sur le compte de sa femme. La femme gère. Elle prend de l'argent là, elle envoie sa famille à elle. Il prend de l'argent là, il envoie sa famille à elle, il envoie sa famille à lui. Parce que ce qui importe, c'est moi. On est ensemble, mais on vit comme si on n'était pas ensemble. Mais pourquoi s'être marié? L'apôtre Paul dit, au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère du mariage est grand. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce que le mariage dont nous vivons aujourd'hui, nous les êtres humains, n'est qu'une image du véritable mariage à venir, Jésus-Christ et l'Église. Donc la façon dont nous bafouons le mariage du Seigneur en tant qu'être humain, ça veut dire que nous n'avons pas compris l'épouse qui est l'Église et Jésus-Christ qui est l'époux. Ça veut dire que nous sommes en train de négliger cette réalité-là. Nous sommes en train de bafouer cela. Mais certains pensent que ça se limite qu'à eux. C'est mon choix, c'est ma vie, c'est dans ma maison. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Nous sommes au Seigneur, nous vivons pour le Seigneur. Et l'égoïsme nous détruit. L'égoïsme ne construit pas. L'égoïsme ne construit pas. Je ne veux pas être trop long sur ce point-là, parce que je pense que nous nous connaissons et que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons très bien ce que nous devons changer, nous savons très bien ce que nous devons corriger. Que le Saint-Esprit nous aide. Il y a d'autres exemples que je vais donner rapidement dans la vie. J'ai parlé tout à l'heure des guerres. Qu'est-ce qui motive une guerre? Si ce n'est s'élever au-dessus d'un autre peuple, au-dessus d'une autre nation. C'est ça qui motive la guerre. De vouloir imposer sa logique de vie aux autres. Pourquoi ne pas laisser l'autre dans sa liberté? Tu veux lui imposer sa religion, tu le tues parce qu'il ne veut pas prier comme toi. Ça, c'est l'égoïsme. Tu penses que parce que toi, tu as trouvé la bonne formule, que c'est par la force que tu dois l'imposer aux autres. Ça, c'est l'égoïsme. Tu vas dans d'autres pays, dans d'autres terres, tu crées des guerres, tu pilles, tu fournis des ennemis, du pouvoir pour faire la guerre. Tu ne te soucies pas qu'il y a une masse qui va souffrir, des innocents qui vont payer, juste parce que tu veux te maintenir en haut des autres, au-dessus des autres. Ça, c'est l'égoïsme. Et en tant que chrétien, même si c'est notre nation qui est à l'origine de ça, on ne doit pas y adhérer. On n'a peut-être pas les moyens politiques de réagir, mais nous avons la prière pour réagir. Nous pouvons dire devant le Seigneur qu'on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Des pays remplis de richesses qui souffrent, on n'est pas d'accord avec ça. On voit toutes les lois qui sont en train de passer pour favoriser l'homosexualité, pour favoriser le mariage homosexuel, et bien plus encore pour favoriser l'adoption des enfants. Et ceux qui sont dans l'homosexualité, c'est déjà un problème devant Dieu, c'est un péché. Mais encore, ils veulent faire entrer d'autres dans cette logique-là. Ils veulent adopter des enfants et faire grandir l'enfant dans un climat, dans un contexte qui ne reflète pas la famille de Dieu, qui ne reflète pas l'identité du Seigneur lorsqu'il a créé la famille. Un homme, une femme. Et l'enfant va grandir avec une notion que la réalité c'est ça, mais c'est faux. Et ça c'est l'égoïsme des gens. Ça c'est l'égoïsme des gens, ça devait leur faire comprendre, mais oui, mais en étant homosexuel, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est qu'il y a un problème. On ne produit pas la vie. Mais c'est le dernier de leurs soucis. Leur souci c'est qu'ils ont décidé que. Alors, quelle que soit la façon dont l'enfant va grandir, ce n'est pas notre problème. Nous voulons avoir des enfants, nous voulons avoir le droit de vivre notre vie comme on l'entend, comme on le veut. Il y a un chrétien qui m'a dit un jour, oui mais si les gens s'aiment, un chrétien, S'ils s'aiment comme ça, mais qu'est-ce que ça fait? Ils font du mal à personne. Un chrétien qui dit ça, en sachant qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fédérations chrétiennes qui acceptent maintenant le mariage homosexuel. Des gens qui se disent chrétiens se réunissent ensemble pour dire que le mariage homosexuel finalement n'est pas grave. Ils s'opposent directement à la Bible. J'ai répondu à cette personne-là. Qui a créé la vie? Mais c'est Dieu qui a créé la vie. Oui, c'est aussi lui qui a fixé les règles. Et dans ces règles, il a dit que c'est une abomination pour un homme d'aller vers un homme, pour une femme d'aller vers une femme. Donc, à partir du moment où Dieu a fixé les règles, on s'y soumet. Ce n'est pas dans la logique que les gens s'aiment, tu es là, oui, mais s'aiment, ils n'ont fait du mal à personne, ils ont fait du mal à Dieu. Parce que Dieu a fixé les règles, et donc les règles sont comme ça. On doit se soumettre à la règle du Seigneur. Mais dans leur égoïsme, ils ne veulent pas l'entendre. Il y a d'autres qui vivent leur vie sans tenir compte. C'est un point qui est des fois gênant, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui ne sont pas propres sur eux, qui ne se rendent pas compte que quand ils montent dans le bus, ils dérangent les autres. Quand ils montent dans la voiture avec les autres, ils dérangent les autres. Mais comme c'est un sujet qui est gênant, personne ne va te dire « tu sens mauvais ». Mais il ne fait pas attention aux autres parce que son souci, c'est sa vie. S'il décide qu'il n'a pas envie de se laver, ce n'est pas son problème. C'est mon problème plutôt. Il dit « c'est mon problème, ça ne me regarde que moi ». Si je n'ai pas envie de mettre un peu de déodorant, c'est mon problème à moi. Mais dans ton problème à toi, tu déranges les autres. Des fois, les gens peuvent te fuir. Tu vas dire « les gens ne m'aiment pas ». Mais non, ils n'osent pas te dire que tu sens mauvais. Le déodorant ne coûte pas cher. On est en France, il y a quand même de l'eau. Ce n'est pas que tu dois aller puiser l'eau dans le puits à des kilomètres et des kilomètres. C'est la réalité, bien-aimé. C'est la réalité. On doit tenir compte des autres. On ne vit pas seul sur terre. L'évangile, c'est d'apprendre à vivre pour les autres. Il y a ceux qui fument en disant, c'est ma vie. C'est ma vie. Non seulement je vois des fois, et je l'ai vu il y a 2-3 jours dans un parc où nous sommes partis avec les enfants, des assistantes maternelles, elles fument à côté de l'enfant. Une assistante maternelle, elle fume à côté de l'enfant. On voit des parents fumer dans leur voiture avec les enfants derrière. Donc il ne se soucie pas qu'il est en train de détruire les poumons de son enfant. Son problème, c'est de soulager son envie de fumer. Et il y a ceux qui disent, oh, mais je ne fume pas devant les enfants, je le fume seul là-bas. Et dernièrement, je disais à une personne, mais tu fumes et ça reste quand même égoïste. J'ai dit, si demain on t'apprend que tu as un cancer, on t'apprend que tu as un cancer demain, tu vas être là prêt à mourir et laisser des enfants tristes, laisser des enfants dans la détresse. Juste parce que tu avais envie de fumer et que ça ne te regardait que toi. Tout ça, c'est l'égoïsme. Et il y a certains qui sont toujours en retard. Constamment en retard, constamment en retard. Donc, il n'a pas le souci de se dire, les gens m'attendent. On t'accompagne quelque part, quelqu'un t'attend dans la voiture, tranquillement, tu discutes. Tu n'as pas le souci, mais il y a des gens qui t'attendent. Vous avez un rendez-vous. Bien-aimés, ce sont des petites choses, mais ce sont des petites choses que si on ne les traite pas maintenant, un jour on va commettre des actes beaucoup plus grands dans l'égoïsme. À chaque fois qu'on vient te chercher, tu es en retard, c'est toujours les autres qui doivent t'attendre, toujours. Tu t'es engagé dans un travail, c'est toujours toi qu'on attend. Tu vis comme si tu étais seul. Tu vis comme si tu étais même le chef de l'entreprise. Parce que tu n'as pas la pensée des autres. Ça détruit. Ça pousse les autres à murmurer. Toujours en retard. Parce que tu regardes qu'à toi. Tu ne penses pas aux autres. Ce sont des petites choses bien-aimées, mais qui ont leur importance. L'évangile, c'est de vivre pour les autres. Matthieu, chapitre 22. Verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Avant de commencer ce passage, je rajoute un point que j'avais oublié. Il y a d'autres, on voit leur égoïsme avec la nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de savoir qui viendra après ou quoi. Leur souci, c'est de manger. Et l'apôtre Paul avait reproché ça à l'église de Corinthe lorsqu'il a parlé de la Sainte Cène. Il dit, il y en a qui viennent après, pendant que d'autres sont déjà rassasiés, les autres n'ont plus rien. Et dans la vie d'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a le plat qui est sur la table, les gens ne se soucient pas de savoir, on est combien, non, ils se servent comme s'ils étaient tout seuls. Ils se servent comme s'ils étaient tout seuls. Et à la fin, quand il reste un peu, il ne prend même pas la peine de proposer qui on veut, parce qu'il sait que certains vont dire moi. Il se sert sans même proposer aux autres. La nourriture est un problème qui démontre aussi que nous sommes dans l'égoïsme. Regardez tout le gaspillage qui se fait dans les centres commerciaux. Regardez tout ce que l'on jette comme nourriture. Non seulement on jette, mais on fait en sorte de mettre des produits de l'eau de Javel pour être sûr que personne ne récupère. Une fois, je suis parti dans un restaurant de la clinique de l'Europe, là. Parce que je travaillais dans une école et j'emmenais les enfants manger là-bas le midi. Et je discute un jour avec le patron. J'ai dit, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se gaspillent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un système pour qu'on puisse, récolter ça et distribuer à ceux qui en ont besoin? Je disais ça parce que j'étais prêt à le faire. Il me dit, non, vous savez, il y a trop de lois. Il faut respecter le froid, le transport, si ça refroidit en cours de route, on ne veut pas de problème, parce qu'après on peut nous porter plainte, ainsi de suite. Donc toutes sortes de lois, uniquement pour favoriser la consommation. Pour favoriser la consommation, alors qu'il y a des gens qui sont véritablement dans le besoin. On annule toutes ces choses-là, à cause de l'égoïsme. Je travaillais dans une association qui aide les personnes en situation de grande précarité et les SDF. Cette association avait commencé à donner un petit déjeuner le matin et un repas le midi. Au fur et à mesure du temps, le repas du midi a été supprimé. On nous dit, bon, c'est à cause des budgets, on ne peut plus. OK. Quelques temps plus tard, ça nous arrivait d'aller à la banque alimentaire qui est, soutenu par l'Europe. Donc, on peut récupérer des paquets de pâtes, des céréales, ainsi de suite. Donc, on récupérait des colis qu'on distribue aussi gratuitement. Ils ont aussi supprimé ça. L'un des collègues va voir la directrice et dit, mais pourquoi on supprime ça? C'est gratuit, on ne paye rien. Ah non, mais c'est comme ça, on supprime parce que, en gros, au-dessus, la politique a décidé qu'il fallait supprimer. Dans quel but? Les gens ne se soucient pas de savoir qu'il y a des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas leur problème. Ils ont des objectifs à atteindre dans le monde des ténèbres et ils sont prêts à ce que les gens souffrent. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Parce que dans la vie dans laquelle ils sont. Mais ils ne sont pas dans la réalité. Il y a des hommes politiques qui ne savent pas combien coûte un croissant. Combien coûte une baguette. Ils ne sont pas dans la réalité d'aller faire la queue dans les centres commerciaux. Donc, ils ont une façon de voir la vie qui est propre à leur monde. Parce que l'égoïsme les rend aveugles sur la pauvreté des autres, sur la détresse des autres. C'est ça l'un des paramètres de l'égoïsme. Ça nous rend aveugles par rapport à la misère des autres. Alors, même si on n'a pas les moyens financièrement d'aider, mais spirituellement, on ne pense même pas à prier pour les pauvres. Les apôtres ont dit à Paul, ce que tu as reçu est vraiment du Seigneur, mais n'oublie pas une chose, n'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. Dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu 22, on veut éprouver le Seigneur en lui demandant quel est le commandement le plus grand. Alors, il répond, puisque c'est lui-même qui est Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voilà le second qui lui est semblable. Quelque chose qui est semblable, c'est quelque chose qui est au même niveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'égoïsme combat ce commandement-là. Lorsqu'on est dans l'égoïsme, c'est que nous ne sommes pas dans l'amour du prochain. Et puisque nous ne sommes pas dans l'amour du prochain, c'est que nous contredisons aussi le commandement « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». C'est une façon de nous dire, bien-aimés, pour conclure, que lorsque nous faisons preuve d'égoïsme, en réalité, nous n'aimons pas Dieu. C'est ça, la réalité. En réalité, nous n'aimons pas le Seigneur. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. C'est comme ça qu'il a démontré son amour. Il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Maintenant, dans son commandement, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais bien plus, il dit encore que ce commandement-là est au même niveau que « Tu aimeras ton Dieu ». Donc, ne pas aimer son prochain, faire preuve d'égoïsme, c'est tout simplement ne pas aimer Dieu. Mais si nous n'aimons pas Dieu, comment nous le verrons un jour, finalement? Comment nous le verrons un jour? Je nous dis ça, bien-aimé, pour que nous puissions saisir la gravité de l'égoïsme. Être égoïste, c'est quelque chose qui est grave devant Dieu. C'est quelque chose qui est grave devant Dieu. Alors toi qui ne respectes pas ton mari, mais je te dis ce matin, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Toi qui n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église, eh bien ce matin, sache que ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu non plus. Toi qui ne respectes pas tes parents, ça veut dire aussi que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux chanter, tu peux donner toutes les offrandes que tu veux, mais lorsque tu es égoïste, c'est même mieux de garder ton argent. C'est même mieux de ne pas chanter. D'abord de te soigner, d'être délivré de l'égoïsme, ensuite tu reviendras à l'Église. Parce que c'est un péché qui est grave devant le Seigneur. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu aujourd'hui ne nous condamne pas. Le Seigneur ne nous condamne pas. Il ne nous destine pas au feu éternel. Mais aujourd'hui encore, il nous donne l'occasion de pouvoir nous repentir et de revenir à ce qui est biblique, de revenir à faire sa volonté. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Nous allons nous humilier et demander la grâce au Seigneur de nous délivrer de toute forme d'égoïsme. Éternel Dieu, nous te rendons grâce ce matin encore, Seigneur. La Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde, Seigneur. Ce matin, nous voulons prendre garde à ta parole. Nous voulons être disposés, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'elle produise du fruit dans nos vies. Nous avons compris, Seigneur Dieu de gloire, et nous voulons premièrement nous repentir, Seigneur. Nous repentir, Seigneur de gloire, toutes les fois où tu nous as invités à partager, Seigneur de gloire, et nous ne l'avons pas fait. Nous te demandons pardon, Seigneur de gloire, pour toutes les fois où nous avons été témoins de souffrances de personnes, Seigneur, et que nous n'avons pas réagi, ne serait-ce que dans la prière. Seigneur, pardonne-nous pour notre égoïsme, Seigneur. Nous savons déjà, Seigneur de gloire, que l'égoïsme détruit le monde, Seigneur. Et par nos agissements, quelquefois, même dans l'Église, nous avons agi avec égoïsme. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à grandir dans l'amour véritable, Seigneur. L'amour qui consiste à vivre pour notre prochain. Par nos propres forces, Seigneur de gloire, on n'y arrivera pas. Ça, c'est une certitude. C'est pourquoi nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, et implorer ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Viens nous soutenir, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous la force, Seigneur, de vivre au-dessus des désirs charnels, Seigneur Dieu de gloire, qui soutiennent l'égoïsme, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons être différents de ceux du monde, Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, qu'il y ait une différence claire entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, tu nous as montré l'exemple en sacrifiant Jésus. Tu as donné, Seigneur de gloire, ce que tu avais de plus cher pour nous donner la vie. Et comme la Bible nous le dit, Seigneur, si un est mort pour nous, tous aussi nous pouvons mourir pour lui. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous voulons être délivrés, Seigneur Dieu de gloire, de tout sentiment, Seigneur, qui nous aveugle devant la misère des autres. De tout sentiment qui nous amène à vivre comme si nous étions seuls au monde, Seigneur. Même dans les petites choses, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons être conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Dans nos prises de décision, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. La Bible déclare, Seigneur de gloire, que tout ce que nous te demandons, selon ta volonté, tu nous écoutes, Seigneur. Et nous savons que ta volonté, Seigneur Dieu de gloire, c'est que nous puissions nous souvenir des autres, nous souvenir des démunis, partager avec notre prochain, Seigneur, porter dans la prière le fardeau, Seigneur de gloire, de ceux qui sont accablés. Dans le nom de Jésus. Aide-nous à grandir, Seigneur Dieu de gloire, dans la prière, à ne pas simplement prier pour nos sujets personnels, à ne pas jeûner uniquement pour nous, Seigneur, mais à nous humilier pour les autres, à prier pour les autres, Seigneur, à jeûner pour les autres, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, ô Dieu. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur.